Puis le cheikh a commencé à entrer dans les détails des différentes formes d'adoration. Et il a dit, قال المصنف رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Les différentes formes d'adoration. Parmi les différentes formes d'adoration qu'Allah a ordonné, on compte l'islam, la foi, l'iman, l'ihsan, la bienfaisance ou la perfection, ainsi que la dua, l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance, le désir, l'effroi, l'humilité, la repentance, demander l'aide, chercher refuge et protection, la demande de détresse, l'appel au secours, sacrifier, faire un vœu, ainsi que plusieurs autres formes d'adoration qu'Allah a ordonnées. Elles sont toutes réservées à Allah exclusivement. La preuve de cela est le verset suivant. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Sourate al-Jin, verset 18. Quiconque dirige ou offre une de ces formes d'adoration à autre qu'Allah est un polythéiste, idolâtre, mécréant. La preuve de cela est dans le verset suivant. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence aura à rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Sourate al-Mu'minun, verset 117. Donc, l'écrivain, rahimahullah, le cheikh, a commencé à expliquer d'abord globalement différents types d'adoration qui sont dirigés vers Allah subhanahu wa ta'ala. On a commencé à dire que Allah nous a créés pour l'adoration. Puis pour l'adorer, nous devons connaître trois principes fondamentaux qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, la connaissance de sa religion. Puis, il a commencé à parler de la connaissance d'Allah, qui est Allah et comment on doit l'adorer. Il a commencé à détailler différents types d'adoration car c'est le droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a cité d'abord des adorations globales comme l'islam, l'iman et l'ihsan. Puis il a commencé à en citer certaines détaillées, comme l'invocation, comme la peur, comme l'espérance, la confiance totale, le désir, l'effroi, etc. Et il a dit qu'il y avait beaucoup d'autres adorations, que ce soit des adorations de la langue, des adorations du cœur ou des adorations du corps. Donc, comme on voit, les adorations, elles peuvent se faire avec la langue, avec le corps ou avec le cœur. Et les adorations du cœur sont les plus éminentes. Et souvent, les gens oublient ce type d'adoration. Ils ne pratiquent de l'islam qu'une image extérieure. Il vient à la prière, son cœur il est absent, la crainte elle est minime. On ne peut pas dire elle est absente parce que la crainte absente c'est que chez les mécréants. Elle est minime, l'insouciance elle est énorme. Il fait des gestes, il vient, il fait. Alors qu'Allah Ta'ala il a dit « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ » Accomplis la prière pour m'évoquer. L'objectif de la salat c'est évoquer Allah, se rappeler d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur distrait, insouciant. » Oui, tu as fait salat, tu as fait ton obligation, c'est-à-dire auprès d'Allah, on ne te demandera pas cette obligation que tu as faite, tant que tu l'as faite avec ses conditions comme il faut, ses piliers, ses obligations, d'accord. Elle est valable, c'est-à-dire que tu n'auras pas à en rendre compte du fait de ne pas l'avoir faite. Mais nous, notre objectif, c'est pas seulement que nos actes soient validés. L'objectif, c'est que les actes soient acceptés, agréés. C'est autre chose. Pour qu'un acte soit agréé et accepté par Allah, ce n'est pas comme un acte validé. Je vous donne un exemple. Vous entendez tous parler du hadith que celui qui va voir un devin et qui rend véridique ce qu'il dit, sa prière ne sera pas acceptée de lui, combien ? 40 jours, n'est-ce pas ? Donc, il prie, il est obligé de prier, il va prier, sa prière est validée, mais elle n'est pas acceptée. Pareil pour celui qui prend des enivrants. Le hadith qui dit que pendant 40 jours, sa salat n'est pas acceptée. Donc, notre objectif, ça doit être que nos actes soient acceptés. Et ça, ça demande de faire les adorations avec humilité, avec amour, désir, avec crainte, avec espoir. Ce sont les plus grandes adorations. D'ailleurs, ce qui a égaré les gens dans le polythéisme, c'est cette maladie qui s'est ancrée dans leur cœur. Ils craignent d'une crainte révérentielle, d'une crainte mystique, d'une crainte occulte autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui vouent des actes d'adoration. Certains, ils craignent les djinns comme ça. Ils craignent les djinns tellement, ils leur font des offrandes, sacrifient pour eux, de peur, tellement ils ont peur des djinns. Comme on devrait avoir peur d'Allah. Cette peur-là qu'ils ont, c'est un acte du cœur. Puis il a cité comme preuve que ces adorations, si elles sont faites pour autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est un péché grave et cela fait de la personne un polythéiste mécréant. Pourquoi il a cité polythéiste mécréant? J'ai une question. Est-ce que tout polythéiste est mécréant? Tout polythéiste est mécréant. Celui qui fait le polythéisme majeur. Mais est-ce que tout mécréant est polythéiste? Non. Il y en a, ils sont mécréants par autre que par des actes de polythéisme. Par exemple, celui qui renie Allah. Est-ce qu'il a adoré autre qu'Allah? On pourrait dire que dans le fond c'est du polythéisme parce qu'il a adoré sa personne en dehors d'Allah, sa pensée. Mais nous on ne parle pas dans le fond, on parle dans un sens religieux. Le polythéisme dans le sens religieux, c'est le fait de diriger une adoration pour autre qu'Allah. Il n'a pas dirigé une adoration pour autre qu'Allah. Il n'a tout simplement pas adoré Allah et il n'a pas adoré autre qu'Allah aussi. Donc c'est un mécréant, même s'il ne commet pas du polythéisme. Donc tout polythéiste est obligatoirement mécréant. Quand on parle du polythéisme majeur, bien sûr, pas tout polythéisme mineur. Et tout mécréant n'est pas automatiquement polythéiste. Un autre exemple, Shaytan, c'est un mécréant, on est d'accord. Qu'est-ce qui l'a poussé à être mécréant? C'est quoi sa mécréance à Shaytan? L'orgueil. Ça, c'est du kufr, ça s'appelle kufrul ibad. La mécréance par l'orgueil, celui qui s'enorgueille à obéir à Allah. Il s'enorgueille devant Allah ou devant l'ordre d'Allah. C'est-à-dire, il délaisse un ordre d'Allah par orgueil. Je suis qui, moi, pour baisser ma tête? Par exemple. Ça, c'est un kafir, mécréant. C'est le kufr de Shaytan. Celui qui délaisse un ordre d'Allah par orgueil. C'est un mécréant. Ça s'appelle kufrul ibad. Kufru takabbur. C'est la même chose. L'ibad, ça veut dire takabbur. L'orgueil. Donc, dans la définition religieuse, on n'appelle pas ça du polythéisme. Mais c'est de la mécréance. Bien qu'au fond, il y a du polythéisme, c'est-à-dire il s'est associé à Allah. Au fond, tout mécréant est polythéiste. Mais si on le veut dans un sens religieux, scientifique, non. Parce que le polythéisme a un sens précis. C'est le fait de diriger une adoration pour autre qu'Allah. Et s'il ne l'a pas fait, il s'est enorgueilli, il est devenu mécréant de par son orgueil. Qu'Allah nous en préserve. Donc, il a cité la preuve que toute personne qui voue une de ses adorations pour autre qu'Allah est un polythéiste mécréant. Il a cité le verset du Coran, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ dans Sourate Al-Mu'minun, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente de son existence, c'est-à-dire toute personne, ce verset ne veut pas dire celui qui invoque une autre divinité avec une preuve, non. Cela veut dire que tous ceux qui invoquent autre qu'Allah, ils n'ont pas de preuve tangible. Ça veut dire ça, ce verset. Ça ne veut pas dire, ah oui, si tu as une preuve, tu peux le faire. Non. Cela veut dire que tous ceux qui adorent autre qu'Allah n'ont aucune preuve tangible. Même ceux qu'ils ramènent comme soi-disant preuves, comme ambiguïté, ne sont pas des preuves tangibles. Donc une preuve qui n'est pas tangible est considérée comme si elle était inexistante. Quand par exemple quelqu'un il dit « cette personne il n'a pas de preuve, il n'a aucune preuve ». Les savants ils disent « cet avis n'a aucune preuve, cette parole n'a aucune preuve ». Toi tu dis « comment ça l'autre ? Il a ramené quand même des versets, des hadiths, il a ramené des choses ». Comment tu peux dire il n'a aucune preuve? Oui, il n'a aucune preuve tangible. Ce qu'il a ramené, ça ne vaut rien. Donc, qu'elle soit présente ou absente, c'est la même chose. Donc, ici, Allah Ta'ala a dit que ces gens-là, qui invoquent avec Allah une autre divinité sans avoir de preuve évidente de son existence, aura à rendre des comptes à son Seigneur. Donc, il montre que cet acte mérite de rendre des comptes. Donc, c'est un acte haram. Ça, c'est le premier point. Puis, il a dit, en vérité, les mécréants ne réussiront pas. Et Allah a jugé ces gens-là de mécréants du fait qu'ils ont dirigé un acte d'adoration qui doit être exclusivement fait pour Allah tabaraka wa ta'ala pour autre qu'Allah. Il commence à détailler certaines adorations. قال المصنف رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ainsi que dans le hadith suivant la dua l'invocation est l'essence de l'adoration la preuve que l'invocation est une forme d'adoration est dans le verset suivant et votre Seigneur dit appelez-moi je vous répondrai ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié sourate Ghafir verset 60 ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين La preuve que la peur est une forme d'adoration est dans le verset suivant Voici Shaitan qui fait peur à ses alliés N'ayez donc pas peur d'eux mais ayez peur de moi si vous êtes réellement croyants Ali Imran verset 175 ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا La preuve que l'espérance est une forme d'adoration est dans le verset suivant. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Sourate Al-Kahf, verset 110. Donc la première adoration par laquelle il a commencé, quand il a commencé à détailler certains types d'adoration, il en a cité 14. Ici, il a cité 14 types d'adoration. Et chaque type d'adoration, il y a amené une preuve. Car chaque adoration, il faut obligatoirement une preuve pour dire que c'est une adoration. Il n'est pas permis d'adorer Allah sans preuve. Il n'est pas permis de citer comme une adoration ou considérer cet acte comme une adoration si nous n'avons pas de preuve que c'est une adoration qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a cité pour cela 16 preuves, 14 versets du Coran et 2 hadiths. En vérité, 3. Celui qu'on vient de citer, mais il n'est pas compté. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas compté. Dua'u mukhul ibada, car il l'a mis comme un titre. Il ne l'a pas cité comme une preuve. La dua, ou l'invocation, c'est l'essence de l'adoration. Ça, il l'a cité juste comme un titre. Il ne l'a pas cité comme une preuve. D'ailleurs, ce texte dans cette mukhul ibada, il est da'if, il est faible. Le hadith qui est sahih, c'est « Ad-du'a'u huwa al-ibada ». L'invocation, c'est l'adoration même. Mais le sens, il est juste. Ça revient dans le même sens. Donc lui, il l'a mis comme un titre de chapitre. Et non pas comme une preuve. Car la preuve, il l'a cité, c'est le verset qu'il a cité juste après. Donc, la première adoration qu'il a citée, c'est l'invocation. Ad-du'a, l'invocation, où elle a un sens général et un sens précis. Le sens général, c'est le fait d'appliquer les ordres religieux, le discours religieux ou le message religieux par amour et par soumission. C'est-à-dire, toutes les adorations qu'on fait pour Allah. Ça s'appelle du'a'u al-ibada. L'invocation d'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu pries, comment on appelle ça une du'a? Quand tu jeûnes, pourquoi on appelle ça une du'a? Une invocation. Car le sens profond de pourquoi tu pries, pourquoi tu jeûnes, c'est quoi? C'est une demande. Tu fais ça pour demander le pardon d'Allah, sa miséricorde, son agrément, son paradis, d'être préservé de l'enfer. Mais tu le demandes d'une manière implicite, en appliquant ces actes, en faisant ces actes d'adoration. Donc ça c'est le premier type qui est général, c'est du'a'u l'ibada, l'invocation d'adoration. Le fait de diriger ce type d'invocation qui est l'adoration pour autre qu'Allah est du polythéisme majeur. Par exemple, celui qui prie pour autre qu'Allah, qui jeûne pour autre qu'Allah, qui fait un pèlerinage pour autre qu'Allah. La deuxième catégorie, c'est du'a'u al-mas'ala, l'invocation de demande explicite. C'est quand la personne demande directement à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah lui ramène un bien, ou qu'Allah lui préserve ce bien, ou qu'Allah repousse de lui un mal, ou qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'écarte, qu'il soit touché par un mal. Donc ça c'est du'a, l'invocation de supplication ou de demande. Cette invocation de supplication, de demande, quand elle est faite par amour et par crainte et par humilité, c'est une adoration qui doit être faite que pour Allah. Mais parfois, elle peut être demandée à une créature. Mais ce n'est pas une adoration. C'est quand cette créature possède la capacité de répondre à cette demande. Dans ce cas, il doit remplir 4 conditions. Retenez bien. Premièrement, cette créature doit être vivante. Donc, demander à un mort, c'est interdit. Quand les gens demandent à des morts des choses, c'est du shirk, car ils les invoquent en dehors d'Allah. Il doit être vivant. La deuxième condition, il doit être présent. Il n'est pas absent. Ici, tu demandes, oh, un tel, donne-moi ça, il est à l'autre bout de la terre. Bien sûr, on ne parle pas de téléphone, hein. Directement comme ça, comme s'il avait un pouvoir, par exemple. Il doit être capable, c'est-à-dire tu dois lui demander une chose qui est dans la capacité d'un être humain ou d'une créature. Par exemple, quelqu'un ne va pas voir un docteur, « Docteur, refais vivre mon mort. Docteur, donne-moi un enfant. » Ça, c'est du shirk. Il lui a demandé une chose que seul Allah est capable de faire. Et celui qui invoque, il doit savoir que celui à qui il s'adresse n'est qu'une cause. Il ne peut pas donner ou retenir ou empêcher de sa propre personne. Il n'est qu'une cause. Si par contre il demande un enfant à autre qu'Allah, la subsistance à autre qu'Allah, la pluie à autre qu'Allah, quand il demande à des morts ou à des tombes, ou même à une personne vivante, ces choses-là, il aura fait du polythéisme majeur. Car il n'aura pas respecté les conditions précitées. Quand on prend une chose comme cause, aussi il y a des règles quand on dit que c'est une cause. Premièrement, il faut que ce soit une cause authentique. Par exemple, une chose qui a été établie comme une cause valable religieusement. Comme par exemple, quelqu'un qui est malade, on lui fait ruqya, on lui lit le Coran, on lui récite des hadiths, des du'as. Ça, c'est une cause légale, précisée dans le Coran et la Sunna. Donc cette cause, elle doit être ou bien vérifiée légalement, religieusement, ou bien vérifiée de manière expérimentale. Quand on dit expérimentale, l'expérimentation physique, réelle. Pas oui, j'ai essayé de demander aux tombes, ça a marché. Ça, c'est pas expérimental. Expérimental, c'est qu'il y a un effet de causalité clair, apparent. Par exemple, quand on prend tel médicament, en général, on a plus mal à la tête, par exemple. Quand on prend tel et tel produit, tel et tel plante, ça peut être une cause d'aider à la fertilité. Ça a été prouvé par l'expérience et médicalement. Ceci est valable, est accepté en islam. Par contre, prendre des causes qui n'existent pas, qui ne sont pas autorisées, comme les gens qui mettent par exemple un bracelet, ou un collier, ou un talisman, en pensant qu'Allah c'est lui qui le protège. C'est pas le talisman. Mais par la cause du talisman. Ceci est du polythéisme mineur. C'est un grand péché, mais ça ne le fait pas sortir de l'islam. Mais ça reste du polythéisme mineur, c'est très grave. Par contre, si il porte un bracelet, une amulette, un talisman, où il prend une cause qui n'est pas valable ni religieusement, ni par l'expérience, et il croit que cette chose, elle peut agir d'elle-même. Elle peut nuire ou être bénéfique par elle-même. Alors ceci est du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Après, il a parlé de la crainte, la peur, le khawf. Et il a cité pour la peur, إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين آل عمران. Ce n'est que Shaitan qui fait peur à ses alliés, alors ne le craignez pas, craignez-moi donc si vous êtes réellement croyants. La peur se divise en quatre catégories. La peur, la crainte, le khawf se divise en combien? En quatre catégories. La première, qui est du tawhid et qui est obligatoire, c'est avoir peur d'Allah, avoir peur de son châtiment. C'est une crainte d'adoration et de soumission. Elle est appelée une peur mystique, secrète, khawf-sir. Et ceci ne doit être voué qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Le voué à autre qu'Allah est du polythéisme majeur, du shirk. Donc ça c'est la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, la peur qui fait partie du shirk, qui est le contraire de cela. C'est d'avoir peur d'une créature comme on a peur d'Allah. D'une peur occulte. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a peur des sorciers ou des djinns, mais d'une peur exagérée, occulte. Il croit que le djinn ou le sorcier peut de lui-même nuire ou faire du bien. Alors il a donné un associé à Allah. Car il a voué une adoration qui est propre à Allah, qui est la peur, à autre qu'Allah. Les deux autres catégories sont la peur interdite. C'est comme le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. La personne, elle a tellement peur qu'il désespère. Cela le pousse au désespoir. Ça, c'est interdit. Ou bien qu'il ait peur d'une chose jusqu'à ce que ça le pousse à délaisser des obligations ou à faire des actes interdits. Mais ça n'arrive pas jusqu'au polythéisme. C'est-à-dire, il ne lui voue pas une peur occulte et secrète. Par exemple, il a peur qu'il ne lui donne pas son salaire, son patron, alors il fait des choses haram. Il a peur d'être viré, alors il se tait sur le haram, il patiente dans le haram. Ça, c'est pas patienter. La dernière catégorie, c'est la peur autorisée. C'est la peur naturelle. La personne qui a peur du feu, qui a peur d'un lion, qui a peur d'un ennemi. Cette peur-là, elle doit te pousser à faire les causes de t'en éloigner, de t'en protéger. Donc c'est une bonne peur. S'il n'y avait pas cette peur dans l'être humain, il serait inconscient. Il voit le feu, il fonce dedans. Il voit un lion, il joue avec lui. N'est-ce pas? Donc, cette peur naturelle, c'est une bonne chose. C'est une chose qui est nécessaire et elle ne rentre pas dans l'interdit. C'est une peur autorisée qui est normale. Si elle est exagérée, jusqu'au point où la personne a peur de choses imaginaires, ou elle a beaucoup de waswas, ça va lui nuire, c'est interdit. Par contre, la peur normale, avoir peur du feu, donc s'en préserver, avoir peur de choses réelles qui sont nuisibles, sans pour s'en éloigner ou s'en protéger, ça c'est normal. Ah ben, les gens qui ont peur de tout, il a peur de sa boîte aux lettres, il a peur de ce qu'il va recevoir comme courrier, il a peur de l'avenir, il a peur de toute chose. Ça, effectivement, c'est quelqu'un de malade. Sa foi, elle est faible. Alors, Shaitan s'amuse avec lui. Qu'Allah nous en préserve. Puis, il a parlé de Ar-Raja. Ar-Raja, l'espoir. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. L'espoir, c'est que l'être humain espère en son Seigneur pour atteindre ses objectifs. Et tout ceci avec humilité, effort et une bonne confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça l'espoir en Allah. C'est pas seulement, il est allongé, j'ai espoir en Allah. Mais il ne fait aucun effort. Celui qui a une bonne opinion d'Allah, cela le pousse à faire les efforts. Une personne, il dit j'ai espoir en Allah, il ne fait rien. Il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne fait pas les bonnes actions, il dit j'ai espoir en Allah. Comme cela a été rapporté de certains salafs, certains pieux prédécesseurs, si tu avais une bonne opinion d'Allah, tu aurais bien agi. Tu aurais agi d'une manière qui plaît à Allah. Tu n'as pas une bonne opinion d'Allah. Ceci, c'est un piège de Shaitan, c'est de la fainéantise. C'est comme une personne qui fait tous les péchés et elle dit Allah Ghafur Rahim. Allah est pardonneur. Au lieu de se remettre en question, oui, Allah est pardonneur. Pour celui qui se repent, pour celui qui revient à lui. Quand tu dis Allah Ghafur Rahim, ça doit te pousser à quoi? À demander pardon, à te corriger, non pas à te laisser aller. Si tu crois réellement qu'Allah est pardonneur, ceci doit te pousser à lui demander pardon, à te corriger. Mais n'oublie pas qu'Allah Ta'ala est aussi dur en châtiment. Et tu n'as pas la garantie qu'il va te pardonner tes péchés. Personne n'a cette garantie-là. Al-ibadatu rabi'a at-tawakkul. Il a parlé de tawakkul. Wa dalilu at-tawakkuli qawluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qawluhu wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa dalilu ar-raghbati war-rahbati wal-khushu'i qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. La preuve que la confiance est une forme d'adoration est dans les versets suivants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Et dans la parole, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. La confiance, cela veut dire que le serviteur expose son impuissance. Le serviteur expose son impuissance à Allah seul. Et qu'il place sa confiance en lui. C'est ça la confiance en Allah. Ceci est une adoration aussi qui doit être vouée à Allah seul. On doit placer sa confiance totale qu'en Allah. Exposer son impuissance, c'est un acte du cœur. Et placer sa confiance totale en lui, ça ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Car cette humiliation, ce rabaissement, cette soumission, elle ne doit être vouée qu'à Allah. Celui qui l'avoue pour un autre qu'Allah a donné un associé à Allah dans son adoration. C'est comme s'il se prosternait devant lui. C'est pareil. Beaucoup de gens négligent les adorations du cœur. La crainte, l'espoir, la confiance totale. Alors qu'elles sont les pires quand elles sont vouées à autre qu'Allah. Craindre autre qu'Allah d'une crainte occulte et secrète, c'est comme se prosterner devant lui. Espérer en lui d'un espoir qui est que pour Allah, dans les choses que Allah seul est capable de faire, c'est comme se prosterner devant lui. Placer sa confiance totale en une créature, c'est comme se prosterner devant lui. Il y a une forme de confiance qui est du polythéisme mineur. C'est la personne qui place une confiance démesurée dans les causes. Par exemple, la personne qui est attachée à son emploi. Il pense que c'est son emploi qui lui donne son risque. C'est une cause qu'Allah a créée. C'est une cause pour avoir la subsistance. Mais celui qui place sa confiance en cela, il a donné un associé à Allah. Il a fait du polythéisme mineur. Qu'Allah nous en préserve. Puis le cheikh a cité la preuve que le désir, la frayeur, l'humilité sont des formes d'adoration et dans le verset suivant. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par désir et par effroi et ils étaient humbles devant nous. Sourate Al-Anbiya, verset 90. Donc, le désir qui est le fait de vouloir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'atteindre son objectif par amour et par espoir en Allah. C'est ça le désir. L'effroi, la frayeur, c'est la fuite du cœur vers Allah par crainte, par peur et frayeur en pratiquant ce qui plaît à Allah. C'est ça l'effroi, rahba. Et al-khushu', l'humilité, c'est que le cœur fuit vers Allah tabaraka wa ta'ala par crainte et effroi tout en se soumettant à lui. On voit que c'est des sens qui sont très proches les uns aux autres, mais chacun a une spécificité. Mais tous, on voit que ce sont des actions du cœur dans lesquelles se réunissent le sens de crainte, d'effroi, du fuite du cœur vers Allah et de soumission. Puis il a cité la preuve que la crainte révérentielle est une forme d'adoration est dans le verset suivant. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ne les craignez donc pas et craignez-moi si vous êtes réellement croyants. Al-Ma'ida, verset 3. Al-Khashya, c'est la même définition que le khawf, que la peur, mais avec quelque chose de supplémentaire, avec science, avec connaissance d'Allah et des ordres d'Allah. Al-Khashya, c'est la crainte avec science, alors que Al-Khawf, c'est la crainte, simplement, qui n'est pas spécifiquement lié à la science, à la connaissance d'Allah et de ses ordres, subhanahu wa ta'ala. C'est aussi une adoration. Puis il a cité Al-Inaba, le retour à Allah, le repentir. La preuve que le repentir est une forme d'adoration est dans le verset وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Az-Zumar, verset 54. Donc, Al-Inaba, c'est le retour du cœur vers Allah tabarak wa ta'ala par amour, par crainte et par espoir. Le retour du cœur vers Allah par amour, par crainte et par espoir. D'ailleurs, c'est pour ça le plus grand pilier du repentir, c'est quoi? Qui peut me dire le plus grand pilier du repentir, c'est quoi? Le regret. Le regret. Al-Nadam. Il n'y a pas de repentir sans regret. S'il y a le regret, tous les autres suivent. Quand la personne regrette profondément, il arrête ce péché. Et il met l'intention de ne plus jamais y revenir. Mais si ce regret est faible, ou alors il ne regrette pas, il n'arrive pas à arrêter. Et il ne met pas l'intention ferme de ne jamais y revenir. Pareil, celui qui a fait un mal à une créature, il regrette. Quelqu'un qui regrette de t'avoir fait du mal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour te satisfaire. Il va te courir derrière. Excuse-moi, je t'achète quoi? Comment j'achète ton pardon? Qu'est-ce que tu veux? N'est-ce pas? Donc, le regret, c'est le pilier essentiel du repentir. Et c'est un acte du cœur. C'est pour ça qu'on a dit ici, le retour à Allah, le repentir, on a dit que c'était quoi? C'est le retour du cœur vers Allah, par amour, crainte et espoir. Puis il a cité la preuve que la demande d'aide est une adoration, et dans le verset suivant, « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons l'aide. Ainsi que le hadith suivant, إذا استعنت فاستعن بالله. Et lorsque tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la demande d'aide, c'est proche de la dua. L'invocation, tout à l'heure dont on a parlé, la demande d'aide, la demande de protection, la demande de secours, c'est une invocation, mais précise. C'est une invocation, mais précise. Une est précisée pour la demande d'aide, l'autre est précise pour la demande de protection, et l'autre est précise dans le cas où il est affligé dans la demande de secours, au moment de l'épreuve. Mais sinon, ces trois points entrent dans les mêmes règles que l'invocation. La preuve que la recherche de protection est une forme d'adoration, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qul a'udhu birabbil falaq et qul a'udhu birabbin nas, les deux versets. Dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, et l'autre verset dit je recherche protection auprès du Seigneur des hommes. Donc ça c'est la demande de protection. On demande à Allah d'être préservé de quelque chose qui nous fait peur. Alors que la demande d'aide, c'est le fait de demander l'aide à Allah pour atteindre un objectif. Et l'istirata, la preuve de la demande de secours, de l'appel au secours, que c'est une forme d'adoration. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Al-Anfal, verset 9. Et l'istirata, c'est la demande du secours d'Allah tabaraka wa ta'ala au moment où on est dans une épreuve ou dans un mal. Donc vous voyez que tout cela, ça rentre dans la généralité de la demande ou l'imploration ou l'invocation, sauf que c'est des demandes spécifiques. Donc on a déjà détaillé tout à l'heure. Et on va finir avec deux derniers types d'adoration. Le premier, il a dit, la preuve que le sacrifice est une forme d'adoration est dans le verset suivant. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dit, en vérité, ma salat, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui, nul associé, et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Et la preuve dans la sunna est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Le sacrifice, il est de trois sortes. Le sacrifice, il est de trois catégories. Déjà, qu'est-ce que c'est le sacrifice? C'est le fait d'égorger une bête d'une manière précise. Une bête de cheptel, de manière précise. Et le sacrifice, il est de trois catégories. L'immolation. Le premier pour Allah. Comme égorger une bête pour le pèlerinage, le hadi. Ou bien quand on fait le qiran, par exemple. Ou le fidya. Ou bien quand on fait une aqiqa. Quand on égorge une bête au septième jour du nouveau-né. Deux moutons pour un garçon, un pour une fille. Ou quand on sacrifie pour Allah, pour en faire aumône. Vouer un de ces actes à autre qu'Allah est du polythéisme majeur. Par exemple, ça existait avant dans certaines tribus, quand un chef ou un roi entre, il vient, il sacrifie des bêtes devant lui, par respect, par vénération pour ce roi. Ça c'est du shirk, c'est du polythéisme majeur. Celui qui fait cela est un mushrik, est un polythéiste. Car il a sacrifié pour autre qu'Allah. Tarviman. Il n'a pas sacrifié pour lui en faire cadeau. Par exemple, il sacrifie des bêtes au retour d'un voyageur, au retour d'un roi. Il les sacrifie pour les cuire, pour lui offrir la nourriture. Non, ça, c'est pas ça dont on parle. On parle du fait qu'il cherche à s'approcher de lui et à l'agrandir et à le vénérer en faisant couler le sang pour lui. Vous avez compris la différence? Ça, c'est du polythéisme majeur. Pareil, celui qui, quand il entre dans une maison, certains, dans certains pays, ils ont une coutume. Ils sacrifient des bêtes et ils étalent le sang. C'est du polythéisme majeur, car ils ont sacrifié pour les djinns, pour qu'ils les protègent, pour pas qu'ils leur fassent du mal. Ils ont sacrifié pour autre qu'Allah. Ceux qui ont fait ça, ils ont donné un associé à Allah. Dans tous les pays arabes aussi, c'est très répandu. Dès qu'ils construisent une nouvelle maison, un nouvel immeuble, ils sacrifient des bêtes, ils étalent le sang partout. Ou ils ouvrent un nouveau magasin. Tout ceci est du shirk. Par contre, celui qui sacrifie pour remercier Allah. Allah lui a donné, par exemple, des bienfaits. Allah lui a donné de l'argent. Allah lui a donné la santé. Allah l'a protégé d'un mal. Allah a protégé d'un mal ses enfants. Il est heureux. Ses enfants, ils ont eu un diplôme. Il a eu le bac, son fils. Il sacrifie pour remercier Allah. Puis il le distribue aux gens. Ça, il n'y a pas de mal. On ne parle pas de ça. Nous, on parle de la personne qui sacrifie pour se préserver du mal. Il dit, ah, si je ne me sacrifie pas et je ne mets pas du sang partout, il va y avoir des malheurs dans cet endroit, par exemple. Ou pour avoir la baraka, il faut que je sacrifie, j'étale le sang là-bas, comme ils font. Ça, en vérité, ils sacrifient pour Shaytan. Et c'est un sacrifice pour autre qu'Allah, qu'Allah nous en préserve. Comme certains sorciers qui se font passer pour des gens qui font ruqya, tu vas le voir, il te dit, va sacrifier un poulet noir dans tel cimetière. Ça, c'est du shirk. Là, il t'a dit, va, prosterne-toi dans le cimetière devant le mort. C'est la même chose. La deuxième catégorie, c'est le sacrifice autorisé. C'est le fait, tout simplement, de sacrifier pour manger, pour commercer. C'est pas une adoration. La personne, elle le fait pour des choses de dunya. Il veut manger, il est boucher, il les sacrifie pour les vendre. Tant qu'il le fait d'une manière halal, c'est halal. C'est pas une adoration, ni c'est interdit. Bien sûr, il est récompensé s'il dit bismillah, s'il fait les choses selon les ordres d'Allah, il est récompensé pour cela. Mais l'acte en lui-même, à la base, c'est quelque chose de mubah, de licite, qui n'est pas une adoration à proprement dit. Et bien sûr, celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, on l'a dit tout à l'heure, c'est interdit. Pour les djinns, pour les morts, ceci est du polythéisme majeur qu'Allah nous en préserve. La dernière adoration dont le cheikh parle ici, la preuve que le fait de faire un vœu est une forme d'adoration, est dans le verset suivant. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Ils accomplissent les vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Alors là, on va parler du vœu. Le vœu. Le vœu, il peut avoir un sens général. Celui qui fait vœu de toujours obéir à Allah. Et il peut avoir un sens précis, qui est le fait de se contraindre sa personne à faire pour Allah une chose surérogatoire, précise, sans condition, de manière absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est détestable de faire un vœu conditionné. Par exemple, « Ya Allah, si tu guéris mon malade, je vais faire un pèlerinage. » Ça, c'est détestable. Allah, il n'est pas avare pour que tu fasses du commerce avec lui. Tu me donnes, je te donne. Allah, il n'est pas comme les êtres humains. Allah, demande-lui, il te donne. Ce type de vœu est détestable en islam. Ya Allah, si j'ai mon bac, je vais jeûner 3 jours. Ya Allah, si j'ai tel travail, je vais faire 1000 rak'at. Je vais faire telle chose. Ça, c'est détestable en islam. Par contre, s'il le fait, après, il est obligé de le pratiquer. Une fois qu'il l'a dit, il est obligé de le pratiquer. Le vœu qui est un acte d'adoration par lequel on s'approche d'Allah, c'est le vœu absolu, qui n'est pas conditionné. Ya Allah, je fais le vœu pour Allah de faire une umrah l'année prochaine. Il a déjà fait la umrah, donc il a fait son obligation. C'est quelque chose de surérogatoire pour lui. Là, ça devient pour lui obligatoire. À partir du moment où il a dit ça, ça devient pour lui obligatoire. Je fais le vœu pour Allah de nourrir 100 pauvres. C'est fini. À partir du moment où il l'a dit, il devra nourrir 100 pauvres. Ça, c'est un acte d'adoration qu'Allah aime. Celui qui le fait pour autre qu'Allah, il a donné un associé. Celui qui fait le vœu pour un djinn, pour un mort, pour n'importe qui, parmi les créatures, pour un ange, pour même un prophète, il a adoré une créature en dehors d'Allah. C'est comme s'il s'est prosterné devant lui. C'est la même chose. Après, il y a des règles qui sont liées au vœu. Ça s'étudie dans les chapitres de fiqh. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est de comprendre que c'est une adoration que l'on doit vouer à Allah tabarak wa ta'ala. On a déjà été très long. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.